Oui, c'est la bande originale avec Leïla Kaddour Boudali.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Pierre-Emmanuel Barré.
Attention.
Daniel Morin.
Bravo Daniel. Bravo.
Et nos invités sont Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste.
Non.
Oui.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Les vrais en plus, hein.
Sérieux.
Ah, les vrais, les vrais, les vrais. C'est le privilège de les avoir pour un film que nous avons adoré. Il a déjà tes yeux. Lors d'une précédente promotion, vous nous en aviez parlé ici, et le pitch déjà nous avait mis l'eau à la bouche. La seule petite différence que je rajouterais, c'est que le vivre ensemble est tout aussi, voire plus important que la simple anecdote de l'adoption. J'espère, Tom Villa, vous avez compris pourquoi on les invitait tous.
Évidemment, pour les quotas.
Vas-y, j'adore.
Non, je vous explique. Pour les quotas, la comédie française.
Ah, voilà.
Hier, on a reçu Benjamin Biolay, un film très sympa, mais on s'est pas fêlé une côte en regardant le film. Voilà. Donc bonjour Lucien Jean-Baptiste, bonjour Aïssa Maïga.
Toi, tu le dis derrière ça.
Jamais.
Mais j'ai pas eu le courage. Alors, vous venez pour Il a déjà tes yeux. Le pitch, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui essaie d'en adopter un depuis des années. Mais le jour où on leur dit qu'il y a enfin un bébé qui attend des parents, ils découvrent que ce bébé est blanc. Alors que eux sont noirs. Sinon, voilà, c'est un fait divers. Alors, fatalement, ça attire l'attention. C'est un cas de figure quasi inédit. Hein. On connaissait des parents blancs qui adoptent un petit noir. On connaissait des parents blancs qui adoptent un petit asiatique. On connaissait des parents blancs qui adoptent un petit arabe. Oui, en fait, le cliché, c'est surtout des blancs qui adoptent. Alors que, c'est vrai, comme s'il y avait que les blancs qui arrivaient pas à avoir d'enfants. Vous savez qu'en France, ça va, votre histoire est très crédible. Mais en Afrique, les gens vont hurler au scandale en se disant, mais si la première, oui, alors je vais pas faire l'accent africain.
Oui, si, fais-le.
Je fais beaucoup moins bien que Michel Leb. Donc, scandale en Afrique, les gens vont se dire, mais si la première ne peut pas lui donner d'enfants, pourquoi il demande pas à la deuxième ou à la troisième? Et c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'après, c'est un court métrage. Alors, on va évacuer très vite ce sujet faussement délicat. Oui, on dit un noir et pas un black, comme vous le dites très bien dans le film. On dit un blanc et on dit pas un white, comme on ne dit pas un feuge, mais on dit rien du tout. Par contre, il y a une exception dans votre raisonnement de couleur. On dit pas un jaune parce que c'est raciste, ou alors c'est les Simpsons. En revanche, c'est un film sur la tolérance, ok, Lucien. Mais les messages subliminaux que vous envoyez sont scandaleux. On le sait que le film il est sur les noirs, pas besoin de rajouter des clichés comme ça. La musique du film, il y a deux chansons. D'Aloé Black.
Ouais.
Au casting, Zabour. Au casting, Zabou Bretman et Vincent Elbaz, qui, comme par hasard, ont tous les deux joué dans Le Parfum de la Dame en noir. Il y a également Michel Jonas qui a chanté La Voix de Jazz, qui rend hommage à tous les chanteurs noirs du jazz américain. Bon, celui-ci, j'en suis moins sûr. Et l'un des coproducteurs, c'est Thierry Ardisson, qu'on surnomme
L'homme en noir.
Putain, ça va, on a compris. Moi, si je fais un film, je prends pas Michel Blanc, Serge Blanco, et la musique, c'est pas les White Stripes. Faut arrêter les conneries un petit peu. Bon, n'empêche, il y en a qui doivent faire la gueule, c'est la manif pour tous. Une histoire d'adoption par un papa et une maman, ça devrait leur plaire, a priori. Mais on va vérifier leur bonne foi, parce que... Alors les cathos, si vous nous écoutez, dites-nous sur Twitter, vous préférez quoi? Un papa et une maman, mais noir, ou un papa et un autre papa, mais blanc? Voilà, là, je pense qu'on a de quoi les faire bugger. Déjà, je pense qu'il y a de plus en plus de cathos qui font la gueule. Bah oui, vu qu'en France, c'est une religion qui perd ses prêtres pour des raisons de vieillesse, de justice et de personne qui veut faire un boulot payé en pièces jaunes. Comme plus personne veut s'engager, y a pas mal de villes où les postes sont occupés et remplacés par des prêtres qui viennent d'Afrique. Hein. Pour certains, l'hostie, il a du mal à passer. Et puis, pauvre Africain, tu m'étonnes, il faut avoir la foi. Prêtre et à Corbeil-Essonne, ça fait lourd à porter. Hein. Bon, je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais c'est pour pas déplorer le film, parce que j'ai très bien compris de quoi il parlait, Nagui. D'ailleurs, je le précise très fort, il est formidable et vous n'avez pas tout vu dans la bande-annonce. Ça, c'est très important.
Le
préciser.
Ah oui, non, mais c'est vrai,
il y a des fois où on regarde une bande-annonce et on se dit on a tout vu, là je vous jure que c'est pas le cas. Je sais pas si j'ai tout compris Nagui, mais si vous aimez l'adoption, Zlatan en slip et les comédies très drôles et intelligentes, et il a déjà tes yeux et fait pour vous.
Merci
bravo original.
Sur France Inter. Et tous les catholiques ne sont pas des extrémistes non
on
plus.
Les connaît, on les connaît.
Tous
on
les connaît.
Voilà, ils sont voilés, etc.
Et
c'est
dans Et moi j'ai mis mon t-shirt Barack Obama.
Yes.
C'est
important de le préciser dire, ouais, à la radio.
C'est important pour
Chelsea Manning.
Ouais, pour lui dire au revoir. Et ça a raison. Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, donc vous êtes retrouvés dans ce projet. Oui, évidemment, ça part. Et on peut même se demander, en voyant le film, on va pas tenir une heure et demie sur l'effet de surprise d'un couple noir qui adopte un enfant blanc. Et pourtant, la situation avec les c'est à l'ASE, c'est ça?
On dit l'ASE.
Alors,
on m'a expliqué quand
l'aide sociale
à
l'enfance.
Non, c'est fini, oui.
Ouais, l'ASE, c'est fini.
Et on m'a expliqué qu'on disait l'ASE parce que la consonne se trouvait entre deux voyelles, c'est ça?
Oui, voilà. Donc en français, on dit ASE.
Ouais, tu veux dire
quoi? Et ça veut dire aide sociale à l'enfance.
Voilà, c'est voilà, ça. Voilà. Où il y a d'énormes photos, d'énormes posters qui sont importants. Je ne vais pas divulgacher ce qui se passe dans le film, mais dans la. Oui, c'est Léla qui m'a appelé l'expression.
La divulgache. C'est ça. J'aime beaucoup ce concept.
C'est les Québécois qui font ça, non?
Oui, pour éviter de dire spoiler. C'est bien.
La divulgation.
Exactement. Ouais. Donc ces posters montrent que des blancs qui adoptent des enfants de toutes les couleurs du monde, mais rarement l'inverse. De ce point de départ, et c'est là où tout le film prend aussi son intérêt, il y a d'abord votre famille, Aïssa Maïga, qui a un poids extrêmement important dans le film, dans sa réaction.
Oui, d'autant plus que comme le personnage de Lucien n'a pas de famille dans le film, comment dire, il a vraiment chargé la mienne.
Exactement, ouais.
Et du coup, on a une maman qui est... Enfin, pour moi, c'est la figure de mère qu'on retrouve dans plein de cultures. Une mère...
La belle-mère, pour moi.
Oui. Une mère qui rêve du meilleur pour ses enfants, qui prend de la place, qui parle fort, et qui est celle qui tient vraiment les rênes de la famille. C'est une figure de mère qu'on retrouve dans plein de cultures.
Comme là, il se trouve qu'on est... qui ne parle pas, un peu un taiseux, mais...
Voilà, il parle pas, mais bon, il en dit long. Dans
c'est
ses ça, silences.
Exactement.
Et,
c'est une
et c'est des, sont des personnages savoureux parce que d'abord, c'est basé sur des choses réelles. Souvent, ce sont les grands-parents qui ont du mal à accepter l'arrivée d'un enfant adopté, à plus forte raison quand cet enfant a une autre couleur de peau que la leur. Et là, bon, c'est une famille sénégalaise, et c'est vrai que, voilà, la maman, ils ont du mal avec ce bébé blanc, ils ont l'impression que ça va pas être possible.
Mais c'est ça. Non, c'est ça qui est fort. Très drôle. C'est que d'un coup, entre guillemets, cette forme de racisme ou de rejet, elle part dans tous les sens. Elle va dans tous les sens.
C'est
aussi bien les noirs vis-à-vis des blancs, les blancs vis-à-vis des noirs, la
voilà,
famille, à l'intérieur même de la famille.
Normand,
voilà, c'est
dire,
ça.
Si vous arrivez avec un ch'ti et dans votre famille marseillaise, forcément,
il y aura des questions, il y aura des interrogations.
Je vais revenir juste sur un truc.
Quand même, là.
On a beaucoup parlé de couleurs, etc. Moi, la chose qui est très importante à souligner, c'est que c'est avant tout et surtout une histoire d'amour. Ces gens-là s'aiment. Et ça, on n'y fait pas assez référence. On se pose toujours des questions. Est-ce que c'est déjà arrivé, machin? C'est une histoire d'amour. C'est un coup de foudre. Quand on voit ce bébé, nous, on voit pas un blanc.
Oui.
On n'est pas dupes, machin. Mais on a un coup de foudre. Vous, dans la rue, vous rencontrez une nana, vous avez un coup de foudre, qu'elle soit blonde ou un bébé. Même si c'est différent. Vous l'aimez, et c'est à partir du moment. Et c'est à partir. Ou un mec, hein, monsieur Guy. Ou un mec.
Enfin, Lucien, c'est
à partir du moment où vous rentrez chez vous, où vous présentez cette nouvelle union, ce truc qui n'est pas formaté, et bien à partir de là. Tous les préjugés, tout se réveille, les clichés, les machins, les peurs, les
ah oui, je disais quand même, il y avait Antoine de Fonds, se vivre ensemble, parce que il est décliné à tous les niveaux.
Ah oui,
au sein de la famille, au sein du couple, y compris avec le personnage de Vincent Elbaz, qui est pour moi extrêmement attachant.
Ah, philosophe.
Et c'est lui qui dit toutes les vérités.
Oui, il a pas
bien sûr.
Il dit exactement, il dit toutes les vérités.
Tout
malgré sa dégaine, l'habit fait pas le moine, c'est celui qui a la vision la plus globale. Lui, il a compris qu'on vivait sur une tête d'épingle et que tout ça était rien du tout. Mais il a une très bonne analyse. Et surtout, à la fin du film, il dit un truc très juste.
Ouais.
Je ne dévoilerai pas la fin du film quand on vend le
tu
bébé sur le marché
le
de Dakar. Quand on revend le Moum. C'est une émission comique. Oh merde, je l'ai dit. Non. Mais il dit cet enfant avait vachement de chance. Et ça, on n'en parle pas assez. Vraiment, on est toujours cette histoire
c'est
de rapport de
couleur.
C'est
pas mal de nous avoir comme parents, non?
C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est une histoire d'amour comme peut l'être Capra avec La Vie est Belle. C'est-à-dire qu'on voit la force, comment la force des protectrices de l'amour et de chaque être humain apporté à son niveau peut faire.
Voilà, et Dieu sait si aujourd'hui parler d'amour, c'est un petit peu, on a l'impression de défoncer des portes ouvertes, tout ça, mais je m'en fous, je continuerai ce combat, et puis c'est un truc sur la différence, je ne veux pas que cette différence soit source d'inégalité des chances, c'est mon combat depuis toujours, moi on m'a inscrit là-dedans et je dis fuck à tout ça, vous êtes libres, soyez libres, c'est un film
mais
sur la liberté.
Arrêtez de nous engueuler.
Ouais. Non, c'est pas vous, ce sont les auditeurs qui disent mais qu'est-ce qu'il raconte le petit noir?
Non, mais en plus, j'aimerais bien surtout, je crois.
Non, mais en plus, ce qui est très bien fait et ce qui est très beau dans ce film, c'est que c'est pas manichéen. On va voir
comme Nagui vient de le dire, du rejet aussi de la part de votre famille Aïssa Maïga. Et c'est pas simplement de dire un rapport victimaire à la société et dire que nous, voilà, les pauvres petits noirs, on est discriminés quand on veut accéder aux mêmes choses que les blancs, tout simplement. Donc ça, c'est aussi, c'était pas simple, je pense, d'éviter un traitement un petit peu juste monochrome, hein, pour faire une petite blague. Mais en tout cas, ça passe très très bien. Et ça, c'est fort.
Est-ce que vous auriez pu écrire ce film, Lucien Jean-Baptiste, sans que ce soit une comédie? Parce que le sujet en lui-même...
Alors, on me pose toujours cette question, pourquoi tu fais des comédies? Pourquoi tu
non,
fais
non,
des
comédies? Non, 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 je parle de ce sujet-là, précisément,
moi,
particulièrement.
Tu sais, malheureusement, moi, je sais pas, demander à... J'ai oublié votre nom.
Daniel.
À Daniel, s'il pouvait faire des chroniques graves, sinistres.
Mais
moi, je fais ce qui me ressemble. Voilà, je fais ce qui me ressemble. Et j'ai fait un documentaire très sérieux pour parler de la couleur, etc. Après, un film sur l'adoption grave, je ne sais pas. Je crois pas. Non,
pas sur la gravité. Je pense, en l'occurrence, toujours pareil, on peut pas dire laquelle.
Non, mais il y a des scènes où...
La toute dernière scène du film, le comportement de la police, qui, là, pour moi, relève vraiment d'un film de comédie et qui est, à la limite, pas crédible, tellement...
Oui.
Voilà, on se dit ça avec des policiers, on se marre. Et bon,
ouais.
C'est qu'au cinéma qu'on peut voir ce genre
bien
de
truc-là. Bien sûr, mais le cinéma, c'est ça. Enfin, si maintenant...
C'est grossir le trait.
J'ai fait un documentaire pour parler effectivement de la différence du racisme.
Super,
voilà,
très
sérieux.
Et on en a parlé ici.
Et vous en avez parlé ici
et
avec
on l'a soutenu,
Alexandra
Miel. Absolument, ouais.
Et maintenant, voilà, dans mon cinéma, moi, je veux parler au plus grand nombre. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais des profs. J'aimais bien les profs qui étaient cool, qui avaient de la pédagogie. Sympa, je préférais ça, moi, qu'un prof hyper autoritaire qui voulait m'expliquer des choses. Voilà, déjà le prof sympa, j'ai envie d'y retourner le lendemain. Voilà, j'essaye de parler au plus grand nombre, tranquillement. Et comme je sais que les gens aiment les comédies, eh bien, si je peux faire passer le message comme ça, pourquoi pas.
Ça fonctionne, ouais.
Mais
absolument.
Je me force pas, hein. Voilà, j'aime
non,
bien.
Non. Et puis, c'est vrai qu'on apprend plus en se marrant que.
Ouais.
C'est très noble, la comédie. Pour moi, c'est une prouesse d'arriver à écrire un film sur des sujets qui sont un petit peu délicats. Hein. Aujourd'hui, parler de l'identité en France, parler de l'acceptation de l'autre, parler du rejet, etc. C'est quand même pas facile.
Parce que c'est pas un film militant, c'est un film humain.
Mais c'est, de fait, c'est peut-être un peu militant.
Oui, mais être humain aujourd'hui, c'est vrai que ça devient militant.
Un combat.
Être et arriver normal, à faire vivre et à rassembler autour de ces questionnements-là, sans, comment dire, comme vous le disiez, à la fois sans misérabilisme et puis en allant gratter les stéréotypes qu'ont les personnages dans leur tête, leurs limites, et voir comment ils se dépatouillent avec tout ça, ça fait qu'on peut se projeter dans chacun de ces personnages et se dire, quand on est tranquillement assis dans son siège, se dire, mais moi, comment je réagirais? Et en rire.
En tout cas, il y a d'excellents comédiens tout le long du film. Le casting, ça a dû être un plaisir de travailler avec eux et de les contacter. Saluons Zabou Breitman. Il y a les incontournables en même temps dans votre Michel Jonas. Qui est émouvant, qui est juste, qui est alors Zabou. Mais alors Zabou, elle est tout dans le film. Elle est à la fois odieuse, à la fois elle va vous tirer les larmes des yeux. On a envie de la coller
C'est la sorcière de contes, c'est la méchante. Et encore, je la rattrape à la fin. Parce que normalement, les sorcières dans les contes, elles disparaissent emportées par les flammes. Mais voilà, le conte, c'est ça. Et là, je la sauve.
Oui, parce que vous cherchez toujours la part humaine qui peut y avoir chez les gens.
Mais vous cherchez travailler là-dessus.
À les juger, à les rejeter, vous, de votre côté.
T'as compris, Nagui ?
Il y a la bande son. Il y a la bande son qui est importante.
Et Vincent Elbaz.
Et Vincent,
Delphine Théodore. On se redécouvre.
Mais vous l'avez fait quoi, ça, Nagui ? Vous l'avez détruit, non ?
Non, mais physiquement. Comme ça, en fait.
Non.
Les chicots?
C'est pas les dents. Non, mais Vincent, il est incroyable. Moi, je lui ai donné plein d'agrès.
C'est pas ses vraies dents.
Non. C'était maquillé.
C'est ses pieds.
Non, il était maquillé. Non, mais c'est un super comédien. Les gens s'étonnent. Les gens me disent, oh, on l'a jamais vu comme ça. Moi, Vincent, je l'ai vu au théâtre. Ça fait longtemps que je le suis, ce mec.
Ça va dans Dali, c'est ça?
Oui, dans Dali, peut-être par machin, bref. Et, non, je parle comme ça, moi, de toute façon. Et c'est un super comédien. Donc, je lui ai donné tous les éléments qui font son personnage, et puis petit à petit il est venu me proposer des choses, et là vous allez voir le film,
c'est top,
c'est magique,
c'est top. Mais tout le monde est fort, et donc c'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est un film à voir et qui sort aujourd'hui fortement. Fortement, je conseille même ceux qui ne veulent pas aller d'être forcé par d'autres qui disent si il faut que tu y ailles. Je rembourserai les billets à ceux qui sont pas contents.
Je le dis à l'antenne, foncez, je vous rembourse si ça vous plaît pas.
Ça vous plaît pas, à propos, je voudrais vous faire écouter un message que j'ai reçu pour vous, Lucien Jean-Baptiste.
Hey, oh, on est les moustachios.
On est là pour faire peur.
Ah, c'est le Capri. Oui,
c'est non, c'est Baptiste Caplin qui
a volé ça. Ah oui, Baptiste Caplin. Mais pourquoi je oui, c'est Baptiste, mon Baptiste. Non, non, ressemble. oui, parce que sur scène,
c'est
non, non, mais la voix, ça me faisait un peu penser à ça. Et qu'est-ce qu'il me dit alors?
Non, mais il voulait avoir de vos nouvelles. Deux, ça, les moustachus,
c'est un truc qu'on déconne là-dessus en tournée. Ouais, pas mal. Voilà. Mais après, je peux pas développer là-dessus. Voilà. Salut, merci Baptiste. Tu m'as bien mis dedans là.
Il y a un blanc.
Oh, pardon, j'ai dit blanc. Excusez-moi. Rien de raciste.
Baptiste, qui joue avec ses origines et qui est en tournée, je sais pas si
ah
vous
oui,
le voir.
Ah oui, ça y est, les moustachus, oh le bordel. Non, dis pas ça, Baptiste. C'est un truc vraiment entre nous. Voilà, on qualifiait une certaine une catégorie de la population de moustachus. Mais bon, bref, la personne ne sait rien de ça.
C'est un peu excluant quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais voilà, c'est assez.
Baptiste m'a dit, passe-le, tu verras, il te racontera, mais visiblement, il veut pas raconter.
Of the record.
En tout cas, on l'embrasse, Baptiste, et on le félicite, ouais, pour le très bon spectacle Origine et un carton qu'il a fait à l'Olympia. Il est encore en tournée. Il sera à Longjumeau samedi, la semaine prochaine à Sanary-sur-Mer ou encore Béziers. Pour Béziers, c'est quand même du courage. Leïla, vos oreilles ont sifflé lorsque Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste ont été annoncés dans cette émission.
Oui, et immédiatement quand j'ai pensé à vous, Aïssa, j'ai tout de suite pensé à Bamako d'Abderrahmane Sissako.
Je vais te dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Hakunai Allah.
Dites-le voilà comment. Oui, dégoûté.
La malnutrition, la sous-alimentation.
Nous sommes dans l'anti-développement.
Aïssa Maïga, vous avez été nommée même au César dans la catégorie meilleur espoir féminin pour votre rôle dans Bamako. D'Abderrahmane Sissako. Quel est le souvenir que vous gardez de ce tournage? Parce que c'est un film où vous êtes absolument merveilleuse.
Merci.
Ouais, vraiment, c'est un coup de cœur.
Ce qui a été très fort, c'est d'abord de travailler avec Abderrahmane, qui a une puissance, quoi, au cinéma. Le fait que ce soit un film à la fois politique et poétique, et qu'on le tourne à Bamako, je viens aussi du Mali.
C'était un choc, ça aussi, pour vous?
Non, c'était pas un choc, mais c'était un plaisir de retourner dans le pays de mon père, et puis d'être avec mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes oncles. C'est assez rare pour moi de pouvoir travailler au Mali pour que ça reste un
double émotion, donc.
Oui, et puis c'était incroyable de tourner dans un film dans lequel moi je portais la part fictionnelle, mais tout le reste c'était du documentaire avec des vrais avocats, des vrais juges qui venaient faire des vraies plaidoiries, un vrai procès pour tenter de condamner la Banque mondiale.
Et cette dimension politique, j'ai l'impression qu'elle vous plaît beaucoup, en tout cas dans les choix de films que vous faites. Il y a toujours un petit côté très engagé.
Ça fait partie des choses qui peuvent m'intéresser, mais pas seulement. Moi, j'aime bien passer d'un registre à l'autre, faire une comédie. Bon, j'aime bien quand ça dit des choses,
voilà.
C'est vrai.
Voilà.
J'aime bien quand il y a du sens, quand il y a quelque chose à défendre,
fond,
mais j'aime bien aussi la connerie. Hein. Je suis très, très friande.
Les deux peuvent aller ensemble. On peut blaguer et qu'il y ait du fond.
Mais c'est vrai que parler de sujets de fond au cinéma en divertissant, je trouve ça génial.
Et c'était aussi super dans Bienvenue à Marly-Gaumont, parce que là aussi il y avait un propos.
Oui, l'histoire de ce médecin africain congolais qui arrivait.
Histoire vraie.
Oui, l'histoire vraie du papa de Kamini, le rappeur de Marly-Gaumont, qui arrivait donc à Marly-Gaumont en 1975. Là où il n'avait jamais vu de noir à l'époque.
Voilà, c'est ça le choc. On poursuit avec vous, Lucien. Quand je pense à vous, je pense au grand fan de cinéma que vous êtes et un film que j'ai découvert grâce à vous. C'est Soy Cuba, on écoute un petit extrait. Là, c'est un extrait d'un plan séquence qui fait plus de 3 minutes 30 avec une musique totalement entraînante. Et ce film, Soy Cuba, c'est un film soviéto-cubain de Kalatozov. C'était en 64. Ouais. Et vous avez une sorte de fascination pour ce film, Lucien Jean-Baptiste.
Oui, d'abord parce que je suis un insulaire. Les Antilles auraient pu vivre ou le vivre. Enfin voilà, sont des îles comme ça qui sont un petit peu brinque-ballées. Par l'Europe, ou là en l'occurrence ce sont les Américains, et on dépeint un Cuba avant la révolution, avant l'arrivée de Castro, où effectivement, eh bien, l'Amérique tenait tout, les grands hôtels, etc. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'on risque de retomber un petit peu dans ce genre de situation. Et c'est pour ça qu'il est intéressant pour les gens de voir ce film. Vraiment, ça dépeint Cuba avant tout ça. C'est très intéressant.
Et ce cinéaste-là, Kalatozov,
c'est un must pour moi. Je me suis inspiré de lui dans mon deuxième film que personne n'a vu. Il faut faire attention quand on s'inspire de génie. Voilà, mais il fait partie des grands.
Ok.
Ah bon, ok, tranquille.
Non mais parce que Lucien en fait avait été invité cet été sur Inter et il a une façon assez... Non pas dans la mienne, c'est dans celle de Guillemette je crois. Et il avait une façon assez incroyable de parler de cinéma. C'est un vrai puits de science en matière de cinéma, de réalisateur.
Parce que vous mangez beaucoup de toiles.
Et tu sais, vous savez, j'ai pas fait d'école.
Non mais c'est bon.
J'ai pas fait d'école de cinéma.
On peut se tutoyer, c'est bon.
Moi je préfère pas.
Non, monsieur d'Égypte,
étant donné que j'ai pas fait d'école de cinéma, donc je me suis énormément alimenté en regardant beaucoup de films, en suivant les conseils
Comment vous allez au cinéma? Est-ce que c'est sur l'affiche, sur un pitch, sur une critique, sur des potes qui vous disent on y va?
Malheureusement,
c'est le cinéma à la maison beaucoup.
Comment? Ouais, c'est le cinéma à la maison. Énormément. En plus, je vais surtout sur les classiques et donc c'est beaucoup de DVD à la maison. Après le cinéma, malheureusement, sur ces 3-4 dernières années, entre le faire et y aller, j'ai préféré le faire.
D'accord. Et vous, Aïssa? C'est les copines qui vous branchent sur des films, des potes qui vous disent j'ai vu tel film. Vous êtes attiré par des comédiens ou des réalisateurs?
Oui, des réalisateurs. Il y a quand même des réalisateurs dont on a envie de découvrir la suite au cinéma. Il peut y avoir Ben Affleck, il peut y avoir Scorsese évidemment, il peut y avoir Claire Denis en France. Ou je pense que j'irai voir le prochain Lucien Jean-Baptiste.
C'est bien.
T'es entre Scorsese et Claire Denis.
Et puis les DVD à la maison, j'adore ça.
Aussi.
Ouais.
D'accord.
Et puis voir et revoir des films, j'aime bien.
Les films cultes, les
revoir
films...
Fargo des frères Cohen, c'est un film que je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais je pense.
Fargo.
Il y a ce film qui sort mais c'est aujourd'hui.
Ouais, c'est aujourd'hui.
Oui.
En même temps, quand on sort de boîte, il y a une demi-heure.
Mais ça sort aujourd'hui.
C'est important.
Mais arrêtez d'écouter la radio.
Allez-y. Je me tue à dire.
Il y a déjà une séance là qui est passée.
Oui, 9h. Très bien. Ils ont pu refuser du monde. C'est le bordel.
Génial.
Mais il reste quelques places, donc venez quand même.
Dès 9h ce matin, il y avait du monde pour notre film.
C'est de bonne augure. Tout va bien, vraiment.
Il a déjà tes yeux. Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste sont des invités jusqu'à 12h30. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Mais si,
salut, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur? C'est Minority Report. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour. Je vous ai vu par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la vaisselle. Alors, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Est-ce pour des raisons sociologiques? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. Hein, la bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. Hein, en effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Hein. Eh bien, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hey,
Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Elysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Alors, il y a aussi ceux qui disent, au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Et puis, vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez. Capital, Macron, l'outsider qui monte. Challenge, 2017, un boulevard pour Macron. L'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne. Dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite, ce Macron, pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps. Hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelé? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça, Nagui? Hein? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt?
Sûrement.
Il a la vidéo où tu joues au lecteur avec Michel Simès? Eh hey Michel, t'es sûr que t'es au Torino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là, c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule, Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors, son programme, Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein? Non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali, il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal, et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein? Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein? Même Patrick Bruel le soutient, putain! Alain Minc et Patrick Bruel! Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron, ça fait longtemps qu'elle a plus de tampon. Merci de m'avoir écouté.
La bande originale.
Ah ouais, t'avais gardé la dernière, quoi.
Ouais, j'ai gardé la dernière. Avec une histoire de tampon en plus. Ouais.
On embrasse Brigitte.
Ouais. Et puis on écoute l'émission cet après-midi sur France Inter.
Mais comment. Oui, qui parle à 14h, donc il faut expliquer la vanne.
Oui, Tom. Mais pardon, bah, allez-y.
La tête au carré à 14h parlera des règles.
Voilà, oui, très très bonne émission.
Mais aujourd'hui sur Inter, c'est très cucu.
C'est le thème.
C'est de la journée.
Il y avait Ovidie qui était venu parler sexe avec Sonia De Villers. Absolument, et pornographie pour un doc qui passe sur Canal. Absolument.
J'ai bien écouté, c'est très
intéressant. Et maintenant, il y a vous pour faire des bébés aussi.
Voilà. Non,
c'est bien. C'est le thème de la journée.
Thématique. Oui, parce que le taux de natalité en France est en train de chuter, donc bref.
Il faut qu'on
C'est pas avec les conseils de Pierre-Emmanuel que ça va remonter.
Non, on va pas y arriver. Lucien Jean-Baptiste, l'idée est-elle venue d'un fait divers, d'une info que vous aviez lu quelque part? Comment?
Il y a deux axes, en fait. Moi, après mon deuxième film...
Il a déjà tes yeux.
Comment
l'idée de il a déjà des yeux.
Le titre du film.
Le titre du film, bon, c'était une réplique. Voilà, c'est une réplique. J'étais en train d'écrire, puis boum, ça.
Non, je demande pas.
Je précisais. Et en fait, non, moi, c'est que j'étais tombé sur un fait divers, un couple de noirs en Angleterre, des Nigérians, qui avaient accouché vraiment. Vous allez sur Internet, c'est magique, c'est dingue. Ils ont accouché d'un petit blond. Et là, j'ai dit waouh. Si les noirs commencent à faire des blonds, c'est que le monde, il est vraiment en train de changer. J'imagine la tête des blancs quand ils ont vu ça. Les fameux cathos, faut tout souvent raconter.
En fait, le grand remplacement, c'est nous.
Et d'un autre côté, un producteur m'a appelé pour me dire qu'il avait un scénario qui était écrit par Marie-Françoise Colombani qui s'appelle Black Adoption. Et je lui ai dit, attends, c'est dingue, je suis en train de travailler là-dessus. Donc on s'est réunis. Et puis j'ai pris ce scénario et puis j'ai mis avec ma patte.
Tout est un peu aussi résumé cette anecdote en tout cas dans la dernière musique du film.
Le Francis Bébé.
Tu le sais bien, ce n'est pas mon fils. On le voit bien, ce n'est pas mon fils. Même si c'est un tien.
l'histoire d'un couple, donc, il y a un petit blond qui arrive, et lui, il dit, non, regarde, il est blond. Il est blanc, tu m'as trompé, c'est pas mon fils.
Mais au-delà de ça, Francis Bébé, c'est vraiment un poète, c'est le Brassens antillais, il est très fort, il dénonce, il dépeint africain, ça va, c'est bon,
moi aussi j'ai une goutte de sang africain, moi aussi j'ai mes racines dans le sang de l'Afrique.
Mais j'adore parce que la réaction d'Aïssa, elle est dans le film. Non, mais c'est ce côté.
La faillite chippée, quoi. C'était.
Voilà, je l'ai pas fait. Non, mais je peux le faire.
Ça aussi, c'était.
Il y a des chippers autour de cette femme.
Ouais, il y a des gros chippers. Non, mais ça aussi, c'était intéressant dans le film.
Chipper, arrête de chipper.
Ça aussi, c'est intéressant dans le film parce que vous savez, on dit les noirs. Et moi, je voulais aussi, dans le fait que Aïssa soit d'origine africaine et moi d'origine martiniquaise, et bien qu'on sache que les noirs, c'est pas un tout. C'est pas. C'est ces fameux laits contre lesquels je me bats aussi. Exactement. Les femmes, les blondes, les tout ça.
Quand
quoi.
On généralise déjà à la base, c'est mauvais signe. Et d'ailleurs, il y en a qui en prennent pour leur grade. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Congolais?
Ah, les Congolais.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut rétablir, nous n'avons rien contre les Congolais. J'ai beaucoup d'amis Congolais.
J'ai un chauffeur Congolais.
J'ai une femme de ménage Congolais.
En fait, Lucien m'a demandé...
Il y a deux vannes sur les Congolais.
Ou alors c'est les gâteaux.
Non, attendez. En fait, pendant qu'on préparait le film, Lucien m'a demandé, par rapport à la famille africaine, etc., quels sont les Belges du Sénégal?
L'équivalent, vous savez, en France. Non, mais en France, on fait des blagues.
Tu crois que tu vas les aider en disant ça?
On fait des blagues.
Je n'ai pas terminé.
Ma chérie, accroche-toi.
Et donc je lui ai dit, écoute, moi, ce que j'ai pu entendre comme blague, comme taquinerie, etc., et j'ai commencé à faire une shortlist. Et j'ai commencé par les Camerounais, les deuxièmes, mais ça n'était que les deuxièmes, j'allais poursuivre. C'était les Congolais, et là, Lucien m'a arrêté, il m'a dit, c'est ça, voilà. C'est bon, on ne change pas.
Parce qu'il y a une belle sonorité congolaise.
Voilà,
congolais.
Et du coup, c'est resté, mais bon, c'est...
Il y a le Congo belge,
c'est
ça aussi.
C'est une façon différencier, encore une fois.
C'est une fois de plus, voilà, le préjugé, il est partout, voilà.
Ils ont mis Games quand même.
Oui, d'accord.
Mais les Congolais, ils ont une histoire.
Ouais, mais les Congolais du 93.
Le film sort aujourd'hui, il a déjà tes yeux, c'est drôle, c'est intelligent, ça fait du bien, c'est un film familial en tout cas, avec de très 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 bons comédiens. On en parle jusqu'à 12h30 aujourd'hui pour vous encourager en tout cas à aller le voir. On a eu la chance de le voir avant sa sortie et on l'a apprécié à sa juste mesure, j'ai même envie de dire au-delà encore. La bande originale de cette matinée, Aïssa et Lucien, on a pris des dates que vous avez peut-être en commun et on les a mises en musique pour voir ce que vous écoutiez, par exemple, dans les années 80... Les années 80, fin des années 80, d'ailleurs. Lucien.
Ça, c'est
toi qui l'as pris.
Luck of Lucien.
Ouais.
C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec votre prénom dans une chanson.
Ouais. Et
ce qui ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est un kiff.
C'était... voilà, c'est un peu la base d'une histoire d'amour. Et cette personne qui se reconnaîtra m'a offert ce disque et voilà, et depuis bref, voilà, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est cette chanson, à chaque fois je l'entends, et puis c'est aussi le rap Easy Listening qui arrive, machin, des mecs très intelligents qui ont du texte, voilà. Tribe Called Quest, faut écouter ça, mais ça a quoi, 30 ans, enfin hein, 40 maintenant, 80, oui
ouais,
presque
ça,
40 ans.
40,
ce 40 son. Ans pile cette année.
Ouais. Bah oui, non, c'est vrai.
Non, j'en sais rien.
Bon, d'accord, c'est bien.
Aujourd'hui, je crois que le disque est sorti pile un 18 janvier, un truc de dingue. Vous étiez dans la pub à l'époque.
Ouais, j'ai une formation publicitaire, mais après j'ai dérivé sur le merchandising. Je faisais des produits dérivés pour plein d'artistes français et pas mal d'événements. J'ai passé 6 ans à Bercy.
Non, Michel Jonas.
Oui, Michel Jonas. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus avec.
Univers l'univers. Vous avez fait quoi? Vous avez.
Non, c'était Où est la source?
D'accord.
J'ai fait tous ces. Excusez-moi, quel souvenir qui arrive là. Non, mais c'est dingue. Je faisais ces t-shirts et puis comme Michel, il voulait pas des produits, il voulait pas sa tête sur les t-shirts, donc on lui a fait des trucs très symboliques, des spirales, des ronds, des étoiles, où est la source et tout. Voilà, enfin bon, c'était une époque.
Qu'est-ce que la pub, le merchandising vous apporte aujourd'hui dans votre expérience pour le cinéma?
Est-ce
que
ça vous a aidé, l'organisation.
Et pour la BO du film, ça vous a aidé aussi pour musicaliser
non,
le film?
Non.
Parce que la pub, ça sert beaucoup de musique aussi.
Oui, bien sûr, mais non. Je dirais que c'est pas tant. C'est surtout le travail d'équipe, gérer une équipe, etc. Après, pour le cinéma, la création. la pub m'a surtout aidé pour voir une phrase, parce que moi je voulais être concepteur rédacteur, c'était les années 80, on pensait tous qu'on allait finir comme ces gars-là, à trouver le fameux slogan La Force Tranquille, mais par exemple si je...
Et avoir une Rolex.
Le titre, voilà, il a déjà tes yeux, il y a des choses comme ça qui sortent, et je fais mais oui c'est ça le titre, j'allais pas l'appeler Papa Noir, Bébé Blanc ou des trucs comme ça, voilà.
Ou Black Adoption.
Black Adoption.
Outil de travail.
Enfin voilà, non, il faut le saut créatif.
Dans ces années-là, en 89, Aïssa Maïga était une fleur et elle écoutait...
Je suis une fleur de province.
Non. Ah non, bon. Elle écoutait Cure. C'est vrai que c'est bon, mais c'est vrai que ça sonne daté déjà par rapport à Tribe Called Quest.
Moi je trouve que ça vieillit.
Mais c'est terrible cet exercice, parce qu'on écoutait tellement de choses. Oui. Enfin bon, bref.
Cure, vous aviez 14 ans, et alors quelle fleur étiez-vous et où étiez-vous, fleur?
J'étais d'abord au collège, j'allais bientôt aller au lycée, et je jouais le week-end et les vacances scolaires dans une comédie musicale qui s'appelle La Nuit la plus longue. La première a eu lieu au Félix Bergère, et je me rappelle, j'étais devant avec ma copine Badia qui jouait l'autre fleur, et il y avait écrit le musical le plus célèbre au monde, et là j'ai commencé à trembler. Je veux pas y aller, j'ai trop peur.
C'était
mise en scène par Daisy Fay, qui avait été ma prof de français au collège et qui était devenue metteur en scène et que j'ai retrouvé par Facebook.
Génial.
Il y a quelques années.
En 96, Aïssa Maïga écoutait Lauryn Hill.
Comme quoi, c'est impressionnant.
Ils ont le temps aussi. Mais
elle fait combien au 100 mètres?
Je ne sais pas.
Ça dépend si elle a volé un truc.
C'est un petit bruitage de
c'est jungle, la guide.
Non, mais si on reçoit du courrier du CSA, vous ne vous en pas.
Ah, ça fait du bien d'être de droite comme ça.
Allez, vote Macron.
Ouais.
Bienvenue sur France Courvoisie.
Donc vous écoutiez Lauryn Hill avec Zion et vous avez votre premier rôle au cinéma devant la caméra de Denis Amar.
Tout à fait. Ça s'appelait Salaka Bob.
Vous avez un souvenir du premier jour de tournage, du premier clap?
Ah ouais, je m'en souviens très bien. Bon, c'était un peu particulier, j'ai un ami qui était décédé la veille.
Pardon.
Et donc, je suis arrivée sur le plateau, j'étais complètement stone. J'avais 20 ans, je savais plus comment je m'appelais. Et Denis Amar est venu me voir, il m'a dit, tu sais, on fait un drôle de métier, on se sert de tout ce qui arrive, de tout ce qui passe. Et j'avais une scène un peu compliquée à jouer, et puis il m'a dit, il faut que t'en fasses quelque chose là. J'ai beaucoup appris à ce moment-là.
En 1997, Lucien Jean-Baptiste écoutait Will Smith.
Come on now.
Oh yeah. Mr. The West. J'adore.
Il faut voir la vidéo aujourd'hui. Je ne dirai pas tous les jours.
Elle a tout. Elle a toutes les qualités.
Ah ouais, non, elle est top. Lucien et Aïssa bouger comme ça de concert.
Ça dans le sang. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont comme ça.
Jingle.
Non, ça suffit. Elle a le. Non, mais vous avez le groupe. Vous chantez vachement bien en plus.
Non, mais j'adore chanter dans ma salle de bain. Et puis maintenant, j'essaie de le faire même quand je suis en dehors de la salle de bain.
Non, c'est vachement bien. Il faut assumer totalement. Wild Wild West, vous aimez quoi de Will Smith? Ça dégaine son savoir-faire, son jeu?
Ouais, mais c'est pas que
jeu.
Ça. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé j'étais allé au cours Florent un an avant, et j'ai pu rentrer dans le doublage.
Oui, c'est l'année où vous quittez tout pour aller au cours Florent.
Voilà, 96, je rentre au cours Florent, et puis...
Ce qui est hyper courageux quand t'as déjà un vrai métier, je veux dire, de tout quitter pour devenir comédien.
Ouais, la grande aventure.
On aura du jogging.
Au début, c'est bien un truc. Non, bref, je commence. Et en fait, en doublage.
Vous voulez pas revenir tous les jours?
Après un an de doublage, on m'a proposé de doubler Will Smith dans Wild Wild West. Donc j'ai chopé mes lettres de noblesse dans ce beau métier qu'est le doublage grâce à cet album. Et puis Will Smith, la classe, machin.
Claire.
Voilà.
Faut vraiment un noir pour doubler un noir?
Alors c'est un grand débat. Ouais. Ils font ça, c'est pas mal parce que quand les blancs le font, ils se sentent obligés de se négrifier. Donc ça donne des alors bonhomme mec, tu vois, le mec il est avocat, il fait entrepreneur, mon client mec, tu vois. Enfin
ça, ça c'est Eddie Murphy.
Oui, mais justement c'est pour ça que c'est un long débat. Eddie Murphy, c'est Medondo qui double Eddie Murphy et il a pris ce truc parce qu'Eddie Murphy en américain il avait ce truc, yeah, you know my man, tout ça. Et donc lui quand il a doublé, il a pris ce truc, ouais mec. Et tous les blancs qui doublaient des noirs sont dit, ça y est, c'est ça qu'il faut faire. Donc le moindre mec qui doublait un avocat noir. Il faisait, votre honneur, la cour demande l'opposition. Et tu disais, mais c'est quoi? Et donc, les mecs, ils ont dit, va falloir qu'on arrête de faire mettre des blancs sur des noirs parce qu'ils se sentent obligés de se rajouter, comme dirait M. Barré.
Mais en plus, ce qui est incroyable, c'est que quand même.
De s'ajouter un peu une obligation de négrifier. Donc, ils ont dit, on va prendre des noirs. Voilà, eux, ils ne sont pas dans cette obligation. Et donc, ils ont pris. Et c'est là où encore, c'est une longue histoire. Ils prennent des noirs qui ont des timbres, enfin, des voix plutôt neutres. Enfin,
voilà, blancs,
pas, faut pas avoir des. Non, c'est pas ça. Parce que ça veut rien dire. Voix de blanc, voix de noir, t'as l'avocat et puis c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est des mecs qui ont.
Pardon, le cliché de pas prononcer les R, les sketchs de Michel Lev de l'époque.
Il y a des noirs qui ont l'accent antillais, il y a des noirs qui ont l'accent africain, du
Congo, congolais, malien, etc.
Donc une fois de plus, ça veut rien dire. C'est on se fait une idée de la voix du noir, voilà, qui généralement plutôt grave. Après c'est des résonances dans les masques, etc. Enfin bon, voilà, je vais pas ouvrir un cours sur la voix, mais voilà. Donc, mais après tout ça, c'est des conneries.
Mais on est d'accord. Aujourd'hui, plus personne ne peut imiter ou dire je vais faire le noir en faisant ce qui se passait dans les années
80.
Avec ce sont pas mes narines, ce sont mes lunettes. Ouais, et tout ça, c'est
pas drôle.
Non, mais
qu'est-ce
non,
que c'était drôle.
Il faut que les gens. Patson qui est un super humoriste noir, il arrête pas de faire des vannes là-dessus. Il dit quand il est avec un noir dans un ascenseur, enfin une fois il était dans un noir avec un ascenseur, il avait des narines tellement grosses. Il avait les narines tellement énormes qu'à chaque inspiration, il manquait d'étouffer. Bon, c'est Patson, il sort des trucs comme ça.
Mais c'est drôle ça.
Après, c'est ce qu'il y a derrière. Non, c'est pas drôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas rentrer dans le truc, mais on n'a plus
c'est
rien
drôle
droit
quand
de dire.
C'est Patson qui le fait, c'est ça.
Il faut arrêter le
non,
truc,
on n'a
plus rien
beaucoup,
droit de dire. Ou Michel Leb était problématique, et j'en parle dans mon documentaire, c'est une espèce d'accumulation de choses, voilà. Moi, à l'époque de Michel Leb, je rigolais, je me rendais pas compte. C'est après que tu vois. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu vois, c'est comme les vannes sur les blondes. Maintenant, l'expression blonde, c'est devenu, c'est-à-dire, t'es blonde, c'est-à-dire que t'es conne. Ouais. Au début, c'est rigolo, on dit, ouais, c'est une blonde. Mais maintenant, tu vois, c'est devenu une expression. Et moi, j'imagine la pauvre blonde, dès qu'elle arrive dans une assemblée, elle sait que la première chose qu'on va penser d'elle, c'est une blonde, c'est une conne.
Il y a même des blondes, il y a même des blondes qui se croient obligées de dire,
je suis blonde. Et les brunes, elles se la pètent, hein. Leïla. Non, mais tu vois, ça tient pas grand chose.
Alors, justement, nous avons demandé à Alexandre Lacroix, qui est le sosie officiel de Macron, de venir. Il est beau gosse.
Quand Boris vient, regarde Aïssa dans l'écume des jours.
Vous êtes beau gosse, Alexandre, vous savez.
Bah,
c'est gênant pour lui. Il
y a une petite tonsure qui arrive là.
C'est pas la première fois que.
Non, mais ça va
arriver.
Ce serait une femme, tu serais misogyne.
Mais là, ça va. C'est vrai.
Là, ça va.
T'as raison. Vous êtes Alexandre, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine depuis le lancement du journal, c'est-à-dire en 2006. Il y a 11 ans maintenant. Vous êtes écrivain, vous avez publié plusieurs essais et romans. On vous a demandé de venir pour parler de ce fameux vivre ensemble qui est quand même au cœur. C'est une expression d'ailleurs qui est beaucoup employée et même je voudrais savoir comment l'expliquer ou l'analyser cette expression. Alors. Je l'ai utilisé tout à l'heure en disant que c'était l'une des forces du film. Ça devient même l'un des thèmes de cette campagne présidentielle. Ça veut dire quoi, vivre ensemble ?
Il y a un problème. Alors, d'abord, j'ai vu le film et c'est une comédie enjouée qui fonctionne très bien, qui est très drôle. L'émission est joyeuse. Alors, je vais jouer mon rôle de philosophe. Je vais essayer de pourber un peu l'ambiance.
Non, mais c'était par rapport à cette expression. Il faut que les gens aillent voir le film.
Par rapport à cette expression du vivre ensemble, je pense qu'il y a à la fois un espoir et un peu d'illusion. L'espoir, c'est évidemment que c'est dans le concret de nos vies que ça va se résoudre. C'est-à-dire, on a des différences, mais on voit bien que un mariage mixte arrive dans une famille. Au début, il y a des réticences, et puis à un moment, les choses se refont. Les humains arrivent à s'entendre une fois qu'ils sont entre eux dans une situation concrète. Et qu'ils se connaissent. Et que les préjugés sont tombés, la vie se tisse. Là où il y a aussi une illusion, il me semble que la formule, quand elle devient un slogan, est agaçante, c'est que c'est l'idée qu'on peut se passer de la politique. C'est-à-dire que ça va se résoudre par la vie elle-même. Mais il y a plein de choses qui vont pas se résoudre tout à fait par la vie elle-même, et il y a de la décision politique nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait avec les sans-papiers? Est-ce qu'on ouvre les frontières? Est-ce qu'on les ferme? Est-ce qu'on reste dans l'Europe? Est-ce qu'on en sort? Ça, c'est vraiment politique.
C'est presque de l'administratif aussi.
Non, c'est pas seulement de l'administratif.
Bah, si. Décision de papiers, d'organisation, de dossiers.
Est-ce qu'on prodigue une aide de santé à des gens qui n'ont pas de papiers? Est-ce qu'on le fait ou pas? Ça, c'est vraiment les questions politiques. Et quand on va dans le politique, ça fait mal. Donc, le vivre ensemble, ça me gêne quand ce sont les hommes politiques qui en parlent. Ouais. Je trouve ça très bien quand c'est la société civile qui s'en empare et qui dit on va essayer, nous, dans le concret de nos vies, de faire des choses malgré nos différences, ça c'est très beau. Mais quand les politiques en parlent, là je suis réticent parce que c'est comme s'ils démissionnaient, comme s'ils n'acceptaient pas de faire leur boulot. On leur demande pas de nous raconter comment ça va se vivre, les situations concrètes dans les familles avec les mariages mixtes ou dans les villages avec les familles de migrants qui arrivent, comment ça va se passer. On leur demande, eux, de faire leur job, c'est-à-dire de prendre des décisions et des décisions sur des sujets qui sont difficiles, qui sont douloureux. Et notamment...
Enfin, il faut souhaiter que ce soit possible quand même, ce vivre ensemble, d'accueillir l'autre, d'apprendre à se connaître. On est tous
c'est
d'accord.
C'est une cata les entrées, là, mais qui vont suivre.
On est tous d'accord avec le fait que dès l'instant où on ne connaît pas l'autre, oui. Quel qu'il soit, oui. C'était aussi le thème du documentaire que vous aviez fait tous les trois, Amel Chabi, Alexandre Amel et vous, Lucien Jean-Baptiste. Dès l'instant où on ne connaît pas l'autre, à la base, on l'aime pas, on le rejette, on le repousse. Donc le vivre ensemble passe par l'écoute, la connaissance.
Je suis d'accord. Il y a une belle scène dans le film où il y a un personnage qui dit comme ça à cette femme qui est jouée par Sabine Azéma. Il lui dit, tu sais, c'est
Zabou.
Zabou. Zabou.
Zabou. Zabou. Zabou. son mari lui dit, mais c'est agaçant ce mot de black, en fait, qui est un mot politiquement correct. Ouais. Pourquoi on dit pas les noirs? Nous, on nous appelle pas les whites. C'est bien trouvé. Et c'est vrai que dans le fait de mettre en avant le vivre ensemble, il y a un peu la même chose. Il faudrait pas que ça devienne, si vous voulez, un politiquement correct officiel. Ouais. Le vivre ensemble est la solution. Je crois, le vivre ensemble, on en fait l'expérience. Mais encore une fois, gardons cette ouverture sur cette dimension. Plus politique.
Et puis il y a le multiculturalisme aussi, parce qu'on parle du vivre ensemble, mais c'est aussi ne pas considérer que vivre ensemble, c'est accepter qu'on vive aussi différemment et pas tenter d'assimiler les gens à une forme de vie qui correspondrait à la norme.
Et oui, mais moi j'ai toujours, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire accepter certes toutes les personnes avec leurs traditions, avec leurs habitudes, mais aussi se fondre aussi dans une culture. On peut pas débarquer dans un pays. Nous les premiers, quand on arrive dans un pays, on se met au rythme de ce... Tu arrives en Espagne, tu es pratiquement obligé de dîner à 23h30, sinon t'es pas dans le rythme du pays.
C'est
tu
pas tant le dîner qui gêne aujourd'hui.
Tu apprends la langue et tu essayes de dire bonjour, au revoir.
Tu l'apprends et tu l'apprends avec... tout d'un coup, c'est comme quand tu débarques dans un pays que tu connais pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu veux? Va en Ouzbékistan demain et puis je vais t'expliquer au bout de 2 mois que tu t'intègres pas si au bout de 2 mois tu parles pas bien.
Dans 2 mois, il sera sur Ouzbékistan.
Non, mais attention, il y a une chose, attention. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, on parle de trucs médias, on est dans l'actualité, etc. Le monde, ça fait un petit moment qu'il est en train de bouger. Je veux dire, il y a 2000 ou 3000 ans, enfin, je sais pas combien, on était dans des grottes. Il y en a un qui est sorti de la grotte. Non, mais voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui va se faire lentement. C'est pas un décret, un truc, paf. Le monde, il est en train de bouger tout doucement. Ça prend du temps.
Alors, bizarrement, j'avais l'impression que ça bougeait. Et ça bougeait plutôt dans les années 70, plutôt avec des mouvements comme Touche pas à mon pote.
C'est rikiki. Non, mais c'est rikiki, ça. Moi, je parle d'un grand mouvement. C'est pas, on n'est pas, je veux dire, enfin, oh là là, mais c'est un tellement long débat. Non, mais rien que le climat, les conséquences du climat sur les mouvements de population. Vous voyez, c'est pas des choses qui se font, l'autre il va décréter, bon on ouvre les frontières, ça y est, le problème est réglé. Le monde est en mouvement, la planète est en mouvement, les cerveaux changent, les esprits changent, et tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça va mettre des années avant que les hommes comprennent que aujourd'hui le morphotype européen il va peut-être évoluer. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte.
Sauf qu'Alexandre a raison,
je tiens ce que je souhaite, évidemment.
Voilà, et je termine, attention. Juste une petite chose, cette histoire de vivre ensemble, moi, c'est, bon, on n'est pas obligé de vivre ensemble, mais non, mais c'est, tu vois, il y a un côté, on est obligé de vivre les uns sur les autres.
Non, c'est pas ça.
Parce que on fait peur aux gens. Les gens, là, il y a des gens qui écoutent, ils pensent que demain matin, ils vont avoir 25 réfugiés devant leur porte. C'est pas ça. Le vivre ensemble, c'est quoi? c'est essayer de se comprendre, s'entendre. C'est pas vivre ensemble physiquement forcément. C'est essayer de comprendre.
Non,
c'est une longue démarche. Déjà, c'est commencer par vivre les uns à côté des autres. Même avec votre voisin, vous vous entendez pas. Vous voyez, et pourtant, vous vous respectez. Le gars, il vit sa vie. Il y a que quand vous avez besoin de sel que vous allez frapper chez votre voisin. Et pourtant, vous vivez ensemble dans le même immeuble. Vous voyez, c'est toutes ces grandes notions. Je veux pas qu'on stigmatise les réfugiés en disant le vivre ensemble, c'est accepter les immigrés. C'est les réfugiés. Ce n'est pas que ça.
Excusez-moi, c'est aussi être pote avec son voisin, quel que soit.
Mais bien sûr.
Même s'il est blanc.
Mais bien sûr. Et même s'il y a du bruit et des odeurs. Non, je rigole. Je suis allé en Savoie, je peux dire que la raclette,
c'est fou.
J'ai fait du barré, là.
Je croyais que tu parlais de Jacques Chirac.
Deux choses là-dessus. Alexandre, d'abord, il y a une phrase de Dostoïevski que j'aime bien qui dit « Plus j'aime l'humanité en général et moins j'aime les gens en particulier. » Et je trouve qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Non, il y a quelque chose de très juste là-dedans. C'est-à-dire que proclamer le vivre ensemble, il y a peut-être quelque chose de louche, c'est peut-être quelque chose qui se vit plutôt que ça ne se décrète ou ça se décide ou ça se proclame. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose sur le cours de l'histoire, sur des millénaires, le brassage, les continents, bien sûr, c'est le cours de l'histoire actuelle, moi, qui m'inquiète. Et j'ai l'impression que la machine de la mondialisation et du brassage est partie en marche arrière. Je me souviens qu'en juillet 2007, quand il y a eu la crise des subprimes, décidément, je dîne.
Qui était une forme de crime.
Avec Roland Jacquard, qui est mon éditeur, qui me dit tu sais, Alexandre, tu la connais, la suite de l'histoire. Je fais non. Il dit là, tu vois, il y a une crise financière. Je dis oui. Il dit ça va entraîner une crise économique. Je fais oui. Il dit ça va entraîner une crise sociale. Je dis oui, d'accord. Il dit il va y avoir une montée des populismes, tu le sais. Oui. Et tu sais comment ça se termine? Par la guerre. Je lui dis, bon, écoute, je lui dis,
Par un accord entre chefs d'État qui font finalement on arrête la guerre.
Jusqu'au dernier mot, depuis 2007, on a une dynamique qui est une dynamique assez mauvaise, une dynamique de démondialisation, une dynamique de refermement nationaliste, une dynamique d'hostilité latente, et on sent aussi un climat, au-delà même de la question de la xénophobie, de l'étranger, de l'autre, un climat de colère. Je rappelle des grands éléments, mais quand vous dites qu'il y a une dynamique merveilleuse de brassage qui s'est mise en place il y a 3000 ans...
J'ai pas dit merveilleuse, le monde bouge, c'est tout, le monde bouge...
Il me semble qu'avec Poutine et Trump, ils bougent dans un sens qui m'inquiète.
Oui, enfin, mais il y a quand même aussi des murs qui tombent. Non, mais souvent les gens ils disent dans le passé c'était mieux, etc. Je veux dire, aux États-Unis, il y a encore pas si longtemps, les Noirs ils pouvaient pas s'asseoir dans un bus. En France, les femmes elles avaient pas le droit de vote. On peut aussi regarder le verre à moitié plein et se dire que, essayer d'avancer sur les choses positives.
Mais les proclamations de vivre ensemble vont peut-être pas suffire. On a un climat d'anxiété, de colère, et il faut que le politique agisse aussi et prenne ses responsabilités.
Bien sûr, bien sûr.
Le nouveau numéro de Philosophie Magazine, dont vous êtes le rédacteur en chef, Alexandre, s'appelle « De quoi la gauche est-elle malade ?» Je suis obligé de l'offrir aussi à Pierre-Emmanuel Barré,
parce que c'est le numéro-là.
Alors, il est collector.
Merci Alexandre.
Merci beaucoup.
Vous voulez quelque chose, Alexandre ?
Oui, non, il y a deux hypothèses dans le dossier. On dit soit elle est malade d'avoir trahi le peuple, ce serait votre hypothèse, soit elle est malade d'être devenu trop libéral. Mais tout d'un coup, c'est vrai que c'est un peu la même idée.
Ce qui est aussi ça.
Mais la droite va la soigner.
Alexandre Lacroix de Philosophie Magazine. Daniel Morin, on le voit, ce combat pour le vivre ensemble est loin d'être gagné, mais il faut quand même le mener au quotidien. C'est essentiel de se rapprocher.
Arrêtez, monsieur Guy. Arrêtez de faire preuve de tant de puissance. Puissance à mi-chemin entre le génie et le paranormal. Puissance intellectuelle et puissance physique, même si aujourd'hui, c'est dommage, vous en servez surtout de cette puissance pour défoncer une porte déjà bien largement ouverte. Vivre ensemble, c'est bien. Faut s'ouvrir à l'autre. Soyons gentils. Blablabla. Faut pas être vilain. En plus, ce qui m'énerve, pour être très honnête, c'est que vous n'y croyez même pas aux fadaises que vous proférez. Pas une seconde. Il suffit simplement de voir votre comportement au quotidien, à notre égard, cher monsieur Guy.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
La différence vous rebute, je le sais, vous me le dites assez souvent. Le nombre de fois où vous m'avez dit « Ah, oh, si Leïla était un mec, j'aurais du respect pour cette femme.
» Pour cette femme.
Eh oui, vous m'avez également dit « Pierre-Emmanuel Barré, il sent trop fort pour que je le respecte. Moi, les mecs qui sentent le maroil, ça me dégoûte. Et moi aussi, je sais que vous avez du mal avec moi. Vous me dites souvent, ah bordel, Morin, si tu étais moins brillant, j'aurais du mépris, mais tu es génial, du coup, je t'aime pas. La différence vous fait vomir, monsieur Guy. Alors, je suis tenté de dire stop à la face du monde libre. Moi-même, je suis un fervent partisan de la fermeture de l'élite sur elle-même. Une société où nous serions réunis, moi et mes semblables. Et puis, est-ce que le vivre ensemble, ça arrange vraiment les choses ? Non, pas forcément. Moi qui, dans un esprit de rassemblement et de camaraderie confraternelle, couche régulièrement et de façon alternée avec Pierre-Emmanuel et Leïla, je ne peux pas dire que c'est un impact positif sur nos relations. Hein. Alors, peut-être un peu, j'en conviens, parce que Leïla n'est pas d'accord. Mais bon, on va quand même pas lui demander son avis, hein, sinon on n'avance pas. Voilà, tout ça pour dire, mon bon monsieur Guy, que toutes vos théories de gauchistes d'opérette, ça ne marche pas. C'est faux. Une fois encore, désolé mon ami, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci,
c'est la bande originale avec Leïla Kadour-Mounadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel.
Bravo Daniel.
Richard Lali. Et nos invités sont Aïssa, Maïga et Lucien Jean-Baptiste.
Oh, sérieux.
Ah oui.
L'histoire de Paul et Sally, qui sont amoureux, qui sont fleuristes, qui sont heureux dans la vie, mais qui n'ont pas la joie et la chance d'avoir un enfant, donc un dossier d'adoption qui visiblement dure longtemps. Apparemment, c'est ce qui est un peu aussi dénoncé entre guillemets dans le film, c'est que les familles qui demandent à adopter des enfants attendent des mois, des années.
Oui, des années, parfois des années. D'abord, vous avez le temps pour avoir l'agrément, c'est-à-dire le petit papier qui vous donne l'autorisation d'adopter. Et puis après, il faut trouver le bébé. Et en France, il est très, 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 très difficile d'adopter parce que, voilà, il y a beaucoup de demandes et peu d'enfants.
Et peu d'élus aussi dans les couples. Un jour, le coup de téléphone arrive. Déjà, les larmes montent aux yeux de Sally lorsqu'elle a la nouvelle. Ça y est, c'est bon. On a rendez-vous à l'ASE, à l'ASE, pour voir et rencontrer Benjamin. Il a les yeux bleus. Il est blond, il est blanc, et là, d'un coup, tous les codes, entre guillemets, de l'adoption, qui sont bien reflétés par les posters dans la salle d'attente de l'ASE, sont troublants. À partir de ce moment-là, il y a cette histoire d'amour pour avoir un enfant,
un coup de foudre,
le regard des autres, et puis il y a aussi le comportement de l'administration. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait des contrôles qui se faisaient...
Alors, le mot contrôle est un peu fort, c'est un accompagnement. Le contrôle, il se fait vraiment dans la période précédente, c'est-à-dire pour avoir l'agrément. Après, c'est de l'accompagnement, tout simplement.
Et pour que ça se passe bien pour l'enfant.
Voilà, c'est et pour les parents adoptants, parce qu'on est un peu déstabilisé, on a un enfant qui arrive. En plus, il y a tout le problème de légitimité de la mère. Donc on voilà. Et moi, j'ai créé ce personnage. Alors les gens me disent, oh, il est un peu caricatural, elle est très méchante. À 99,
joué par Zabou Breitman.
Divinement joué par Zabou Breitman. Et c'est vraiment, je l'ai créé du point de vue suite au témoignage d'adoptants qui me disent quand cette personne arrive, ils sont tous flippés. C'est l'angoisse parce qu'ils ont peur de mal faire. Ils ont peur qu'on leur retire l'enfant.
De la va de mal placer, de la révision de la voiture et tout ça.
Voilà, tout ça, donc c'est je l'ai construit comme ça.
Ah, ça fonctionne bien. Alors, il faut dire qu'il y a un petit effet comique, comme tout effet comique, à partir d'une situation qui peut être réelle ou voire dramatique, et le trait est grossi puisqu'il y a une espèce d'harcèlement de la part de cette personne qui va venir non pas une fois tous les mois ou tous les six mois, mais pratiquement toutes les semaines,
ouais, en disant qu'il
y a un truc qui va pas parce que elle a le sale rôle, elle a celle de
celle
qui n'accepte pas, comme un peu vos parents dans le film, Sally.
Oui, en fait,
il y a
tout le regard de la société qui est incarné par mes parents dans le film, par l'assistante sociale de l'ASE, par la pédiatre, par une nounou africaine dans la rue. Enfin, tout le monde quasiment a du mal à admettre que je puisse, moi, salimata, être la mère de ce petit enfant.
Vous parlez de
blanc.
La pédiatre, c'est aussi la salle d'attente, le moyen aussi de montrer que la société évolue et que les codes évoluent dans la manière d'éduquer un enfant, d'être papa-maman d'un enfant ou papa-papa d'un enfant, puisque c'est la scène qui est dans la bande-annonce. C'est pour ça que j'en parle.
C'est-à-dire dans la salle d'attente, il y a Aïssa qui est avec son bébé.
Elle la prend pour la nounou.
Voilà, et après, elle dit, bon, qui sont les suivants, et là c'est un couple homo.
C'est extrêmement drôle, c'est intelligent, puis ça fait du bien, voilà, pareil, les temps qui courent, d'avoir ce genre de film. Il l'a déjà
lumineux.
Les yeux, ça sort aujourd'hui, c'est lumineux,
ouais,
exactement. Nous allons éteindre
moment.
La lumière maintenant avec Daniel Morin. C'est la force obscure.
Vous l'avez sûrement entendu sur nos ondes, ça s'appelle le message de prévention. Oui, heureusement que le service public est là pour nous informer.
Attention, vague de froid exceptionnelle.
Merci les gars, merci, on avait remarqué. Quoi
quand
d'autre?
Quand on est exposé au froid, cela peut entraîner des risques graves pour la santé.
Ah bon? Quand il fait froid, on tombe malade? Ah bah merci, merci pour cette info de première bourre. Tu vas voir que ça continue, il veut dire les vieux doivent se méfier.
notamment pour des personnes âgées.
J'en étais sûr. Bon, et concrètement, est-ce que vous avez un conseil pour lutter contre le froid dehors ?
Restez chez vous autant que vous pouvez.
Ouais. Et pour pas avoir froid à la maison, un petit conseil malin, une astuce de génie ?
Chauffez.
D'accord, chauffer, oui, mais d'accord, c'est un peu court, chauffer comment ?
Sans surchauffer.
Ok, formidable. Voilà, c'était le message de prévention contre la vague de froid que vous entendez régulièrement sur notre antenne.
Allez, pauvre gars,
on passe à autre chose. Aujourd'hui, c'est jour de sortie ciné, alors allez-y, faites-vous plaisir. Moi, perso, je vous recommande le film de Lucien Jean-Baptiste. Mais bon, comme Nagui a trouvé le film, je cite... Cucu.
J'ai jamais dit ça.
Si, tout à l'heure. Oh, c'est pas grave.
J'étais là.
Alors, merci.
Nagui, ça marche, les films de cul.
C'est deux après.
Les deux, c'est encore mieux.
Nagui m'a dit texto, je cite. Non, ça va, c'est bon, tu fais pas 1h35 avec des noirs qui ont un bébé albinos. C'est méga relou. Il m'a demandé de faire la promo d'un film qu'il a adoré. XXX Reloaded, un film d'action avec Vin Diesel, un chauve hyper musclé qui met des pains dans la gueule à des vilains qui veulent saccager la planète. Nagui m'a dit, ça c'est du film, ça s'envoie. Et curieusement, c'est pas un film France Inter. Pourtant, la lutte du bien contre le mal, c'est ce que j'appelle un vrai film de gauche. On peut très bien être de gauche, aimer les gros flingues, les femmes à poil et la drogue. Regarde-moi. Et puis, Vin Diesel, j'adore, je kiffe son jeu, je kiffe son corps. Ah, si c'était lui qui avait mis une mandale à Manuel Valls hier après-midi, il serait encore aux urgences, le matador de Solferino. Bref, voilà, message est passé. Allez voir XXX Reloaded, c'est le Nagui's Choice. Ah bah tiens, à propos de la mandale qu'a reçue l'ancien Premier ministre hier à Lamballe. Nous rappelons à tous ceux qui nous écoutent que ça ne se fait pas. Non, c'est pas cool, c'est pas bien, on ne tape pas. Depuis hier, c'est l'enfer, tout le monde s'y met. Hier, tiens, le gardien de mon immeuble est passé me voir... Bonjour Monsieur Morin, merci pour les étrennes. 10 euros, waouh! Radin! Du coup, ça m'a agacé, alors je m'y suis mis aussi. Ce matin, je suis arrivé à Radio France, premier contact, le vigile. Bonjour, je peux voir votre badge? Tiens, alors voilà mon badge! J'ai enchaîné avec la femme de ménage. Bonjour, ça va Monsieur Morin? Qu'est-ce que ça peut te foutre? 9h, je croise Jean-Baptiste Guiroux, le rédacteur en chef de l'émission, qui me dit « Salut Daniel, et ta chronique, tu vas faire... » De quoi je me mêle? 10h55, Leïla déboule encore envers moi. « Oh Daniel, s'il te plaît, j'ai encore envie, viens, on a le temps, l'émission c'est dans 5 minutes. » « Lâche-moi, je suis pas une machine, merde !»
Ça c'est vrai.
Eh ben... Ça soulage. Ça, je suis pas une machine. Ça soulage, mais c'est pas des manières, j'en conviens. Il faut raison garder, les amis, même si en face de soi, on a quelqu'un qui mérite très bien cette petite tarte. Ça va, Nagui ?
Allez, non.
À demain !
Merci.
La Bande Originale, Nagui, sur France Inter.
Je voudrais saluer également dans le film Il a déjà tes yeux qui sort aujourd'hui, sûrement l'un des meilleurs comédiens de sa génération et qui est juste excellent dans le film, c'est Yannick Samo.
Qui est
sympa.
Ça fait plaisir.
Incontournable, qui est un poteau que j'embrasse.
Ouais. Qui est le fleuriste à Rungis. Ouais. Hein.
Voilà, exactement. Lui qui a plein d'enfants en revanche.
Et qui sait pas trop justement où est la vanne, où n'est pas la vanne.
En quelques répliques, le personnage est campé, il est trop fort.
Bisous Yannick. Dans l'actualité d'Aïssa, alors c'est, je sais pas si c'est magique pour vous ou si c'est manque de bol, mais il y a un autre très bon film dans lequel vous jouez, Corniche Kennedy, qui sort aujourd'hui. C'est un peu dommage donc quand deux films...
L'abondance ne nuit pas. Message du service public.
Oui, mais l'info pour tout le monde.
Ne restez pas chez vous, sortez.
Sortez, allez au cinéma.
J'ai eu la chance de le voir, Corniche Kennedy, c'est aussi une histoire d'amour, une autre manière, avec l'excellente Lola Creton. Il y a Moussa Mascri, Kamel Kadri et Alain de Maria, une bande de gamins sur la route entre Marseille et Cassis qui sautent des rochers dans les calanques en faisant des plongeons vertigineux. Rencontre de deux sociétés totalement différentes, puisque Lola les admire de sa villa.
Lola, c'est une petite bourge qui vit dans sa petite dans un milieu très protégé, elle est bourge et puis elle les voit, eux sont des jeunes qui viennent sauter d'une falaise que je connais très bien parce que je connais un petit peu Marseille, j'adore cette ville, mais ils sautent d'un endroit qui est hyper dangereux, ils représentent pour elle la liberté.
Et au milieu de ça va venir une affaire de trafiquants, une affaire de bandits parce que vous êtes policier dans le policière
capitaine
même.
Pardon, de la brigade des stupes.
C'est sérieux. C'est très sérieux. Avec, on dira pas tôt, mais en tout cas, il y a de très très belles images. Saluons la réalisation de Dominique Cabrera, qui a également
très grande réalisatrice,
écrit le scénario.
Et l'image aussi.
Ça sort.
Exceptionnel.
Il y a une belle. Ouais. Tu l'as pas vu le film, tais-toi.
L'image est magnifique, sérieusement.
L'image, il s'en fout, Nagui. Mais
non, mais toi, salaud. Il s'en fout de ma gueule parce que j'avais pas parlé de l'image. Ils sont à foutre de l'image.
Oh, il est grave.
Il y a même. Il y a même
Daniel, non, je précise. Daniel est grave.
Il y a même de belles images sous-marines, figure-toi, avec la chasse aux poulpes. Tu peux
pas comprendre. Il y a une GoPro, et puis voilà. Moi, je travaille avec vous, j'ai une petite idée du poulpe.
Et il y a beaucoup de GoPro, oui, absolument. Et de portables, c'est un film.
C'est un très beau film qui arrive à restituer comme ça la vitalité des jeunes confrontés à la dureté du monde qui les entoure.
Et il y a des scènes qui sont au début d'ailleurs tournées au portable, des photos prises au portable et qui vont être même le détonateur de l'enquête que vous menez. Et à propos de portable, vous serez membre du jury Mobile Film Festival en février. Le pitch, entre guillemets, c'est de faire un film en une minute
avec son portable.
Un portable, c'est
un film de cul, quoi.
Non.
Non, c'est la journée. C'est sympa de venir parler de nos projets chez vous.
Il n'empêche que vous serez membre du jury avec il y a Emmanuel Berco aussi.
Tout à fait. Maïmouna Doukouré, qui est une jeune réalisatrice très talentueuse. Et puis les autres que là tout de suite j'oublie, mais que je serais très heureuse de retrouver.
Attendez, moi je dois les avoir quelque part.
Je crois qu'il y a Julie Gayet. Désolé. Ça me revient.
Et Martin Scorsese. Et
avec un Affleck.
Et il y a Gérard Spielberg. Alors attendez, j'ai là. Voilà, Jalil Lesper, Laurent Grégoire, Julie Gayet, Maïmouna Doukouré, Émilie Dequesne, Kim Chapiron, Emmanuel Berco, donc et vous. Il y a 150 000 euros de prix pour celui qui va rafler la mise, plus des prix pour.
De quoi faire un très beau court-métrage derrière, voilà, de plus d'une minute.
Ou l'aide à l'écriture de scénar aussi.
Ou pas
c'est fini.
C'est trop
tard. L'année prochaine.
Trop tard. Mais il fête déjà ses 12 ans, en tout cas, ce festival. Mobile Film Festival. Voilà. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi pour Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste.
Super, Aïssa, Lucien, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Je crois que Lucien aime bien la chanson. Ouais. Allez, on y va. Un premier son pour vous, Aïssa.
Le producteur, allez.
Tu vas commencer à t'exciter par lui. En même temps, tu vas lui dire je t'aime. Allez, essaye, vas-y. Vas-y, vas-y, sens-le! Sens-le! Tu lui dis je t'aime! Encore! Encore!
Je t'aime!
Encore! Non, ça va pas!
Mais je ne peux pas!
Mais si, tu peux!
Non, je ne peux pas faire ça!
Ah, c'est trop bien! T'as un contrat de payer pour
mais
ça!
Je peux pas!
Tu fais ce qu'on te demande! Allez!
C'est un extrait de L'important, c'est d'aimer, avec Romy Schneider. Et c'est devant ce film, je crois, Aïssa Maïga, que vous avez eu la révélation.
J'avais environ 14 ans, je joue le rôle d'une petite fleur dans une comédie musicale, n'est-ce pas? Et je...
Au Folies Bergère.
Je commençais, au Folies Bergère, entre autres, et je commençais à rêver très 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 secrètement de devenir comédienne. Et un jour, je zappais et je suis tombée sur cette scène. Je n'avais pas prévu de voir ce film. Et j'ai vu... J'ai compris en fait. Non, mais c'est un film qui est magnifique. Mm-hmm. Romy Schneider est au-delà de l'exceptionnel dans son interprétation. Et ce qui m'est apparu très fort, c'est le fait que, en fait, jouer dans des films, c'est justement ne pas jouer. Et là, bon, j'ai pas les mots. Et puis l'extrait que vous avez mis, il est magnifique parce que on découvre aussi une femme, une comédienne qui est aux prises, qui est prise dans. J'arrive pas à en parler, ça me bouleverse.
Elle est vulnérable.
Mais qui est extrêmement vulnérable et à laquelle on ne laisse pas le choix. On veut tout lui prendre. Ouais. Tout. Et c'est une question qui est passionnante. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Jusqu'où on est prêt à aller? Quelle est la condition de l'acteur? Qu'est-ce qu'on met de sa propre vie dans les rôles? Et c'est précisément ce qui est passionnant.
C'est vrai que vous avez du mal avec certaines phrases, quand même.
Mais cet homme est sans pitié.
C'est un homme qui souffre, tu sais. C'est pas possible d'être Daniel Morin.
Eh bien, moi, je vous aime, Daniel Morin.
Faut pas le dire trop fort, parce que sinon, ça rend la suite un peu compliquée. On poursuit avec un son pour vous, Lucien.
Dans votre programme, je vous cite, vous voulez bannir la musique nègre.
Je veux simplement que dans une politique culturelle identitaire, et par conséquent, les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale.
Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, en 2016, comme musique nègre?
La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes.
Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement.
Il y a une obscénité latente. La musique neuve est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel.
Voilà, des mots difficiles à entendre, mais ouais. C'est important de connaître l'ennemi, en quelque sorte. Ouais. Et en l'occurrence, c'est le directeur de Radio Courtoisie, Henri de Lesquin. Et vous avez rencontré pour le documentaire « Pourquoi nous déteste-t-il ? » J'imagine que c'est pas facile de garder son calme face à un individu comme ça. Comment on s'y prépare? Parce qu'on entend bien, hein, c'est quand même, ça ressemble plus, c'est des divagations, c'est des avis à l'emporte-pièce, c'est toute une accumulation de stéréotypes pour essayer de tenir un discours.
Mais justifie quand même.
Voilà,
la question est pour Henri de Lesquin.
Qui ne tient pas, c'est un raisonnement qui est vicié.
Oui, c'est puis non, mais avant de le rencontrer, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ces gens-là ont droit au chapitre? Est-ce qu'on doit les faire Voilà, je suis toujours très très perturbé quand je réentends ce mec, parce que c'est vraiment des gens très dangereux, parce qu'ils ont des fans et il arrive à faire école.
C'est pas sur des fans, c'est des fanatiques.
Ouais, des fanatiques. Ouais. Et mais ce qui était intéressant quand je l'ai rencontré, c'est pourquoi j'ai souri à un moment. D'abord, c'était un rire de protection, et je me suis rendu compte qu'il disait un paquet de conneries, quoi. Et moi, qui étais un petit peu impressionné, car c'était un mec polytechnicien et narche, donc je pensais qu'il allait arriver à développer une pensée construite, etc. Et en fait, c'est un ramassis de conneries. Et il faut continuer à lutter contre ce genre d'individus.
Mais là, vous avez raison, c'est de les faire parler. Rend leur discours totalement idiot, et ils s'autodétruisent.
Les vrais racistes, on pourra rien faire contre eux. Ils sont complètement investis, habités. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui sont à peu près normaux, soient rassurés dans leur positionnement, et ceux qui auraient l'envie de se rapprocher de ces thèses se disent, mais non, je peux pas aller dans cette direction-là, c'est vraiment des conneries.
Et pour ceux comme Emmanuel Barré, qui se moque de notre vivre ensemble tout à l'heure et du discours maintenant,
la
liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Voilà, c'est tout. Et ces gens marchent sur la liberté.
Thierry Beccaro. Oui, et en tout cas, ce documentaire-là, après sa diffusion de télé, a rencontré un vif succès. Il est prévu au cinéma et il est même présélectionné.
Oui, pour les Césars. Oui, génial. C'est marrant. Il y a des rencontres. Voilà, vous faites un documentaire et ils arrivent. Alors il y a pas eu de calcul, hein. Mais en période préélectorale où on est dans une période de division, de peur, où on fait peur aux gens. Les politiques manient ça divinement bien. Eh bien voilà, il y a des sujets. Même le film Il a déjà tes yeux arrive, éclaire les gens sur des questions qui peuvent se poser. C'est une autre façon d'avoir des réponses.
On poursuit avec un autre son pour vous, Aïssa.
C'est des gens d'abord qui me plaisent. Que je trouve beau, que je trouve sexy, que je trouve gonflé. J'ai l'impression qu'ils ont peur de rien. Et c'est ça qui fait que je suis rassurée, parce que je me dis, ils sont capables de tout.
C'est la voix de Claire Denis qui parle de son amour des comédiens. Claire Denis, une réalisatrice dont vous aimez particulièrement le travail, je crois. Vous dites aussi souvent d'elle qu'elle a mené un vrai boulot sur la photogénie des peaux noires. Elle sait magnifier les peaux noires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Aïssa?
Non, mais j'ai dit ça là, il y a longtemps, je le pense toujours.
Ouais.
Mais je l'ai dit à un moment où il y avait très peu d'acteurs noirs visibles dans le cinéma français. Alors que moi, j'en connais beaucoup et ça fait un moment que je les connais. Je connais des gens qui sont extrêmement talentueux et qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Et dans le cinéma de Claire Denis, c'était parmi les rares films français où les personnages noirs avaient été vraiment traités, c'était des rôles très forts. Et puis elle a su révéler des gens comme Alex Descasse, par exemple, qui est un acteur magnifique. Puis des films comme S'en fout la mort. Enfin, c'est vraiment un cinéma à voir et à revoir. Et c'est vrai qu'il est particulièrement bien traité à l'image. L'image est très belle, monsieur Daniel.
On n'en parle pas assez. Qui intéressez-vous, s'il vous plaît?
Je m'intéresse.
Je finis par un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Aïssa, je vous offre les 100 derniers jours du Parti Socialiste.
Ça commence quand?
C'est signé, et c'est important, c'est signé Bruno Gassiot aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il raconte que c'est finalement la fin du PS, qui va décéder le 23 avril 2017. Son enterrement aura lieu le 9 mai suivant, qui souffre souffre de libéro-encéphalite dégénérative, de bordéloplastie, de déboussolite rétractile, de syndrome de la valse falsette et de surdité profonde. Il évoque ainsi...
Donc on parle de toute la classe politique, en fait.
Oui, et surtout du Parti Socialiste. Et pour vous, Lucien, c'est un texte, c'est un essai de Romain Lejeune, un jeune journaliste talentueux qui signe « Jeunesse, tu comptes », parce qu'on passe notre temps, et ça va bien avec votre côté optimiste, c'est de dire que y a encore plein de ressources et que cette jeunesse-là, il faut la mobiliser et il faut lui dire qu'elle est capable de tout, capable de se dresser, capable de traverser les frontières pour aller voir ailleurs, comprendre mieux l'autre et revenir un peu plus riche. Et ça, c'est pour vous.
Merci. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je reçois à l'instant un texto qui aurait dû arriver plus tôt, en fait, les camarades, pour faire cette émission.
Lucien Jean-Baptiste qui s'excuse de ne pas pouvoir venir.
C'est démasqué.
C'est pas loin. C'est le Caplin qui...
Non, c'est pas loin non plus. Je sais pas si tu le sais, Nagui, mais Lucien est un ancien champion de France junior de lutte, donc faites gaffe à vos questions.
Bon, ouais,
on a reçu le
texto
un peu tard.
C'est vrai, c'est pour la source.
Un très joli sport. Oui, j'étais champion de France il y a pas mal d'années. Et ce sport m'a...
C'est pour ça que vous êtes aussi affûté.
Ouais, tu parles. Non, c'est fini. Si vous m'aviez connu il y a 20 ans, mon petit...
Il a déjà tes yeux... Non, c'est Yannick Sabouk, en bras, qui m'a envoyé à l'instant ce texto. Si vous avez envie de réfléchir, mais aussi de vous amuser, de sortir en famille, petit, grand, il n'y a pas d'âge pour aller apprécier ce film. Il a déjà tes yeux, sort aujourd'hui. Nouveau film de Lucien Jean-Baptiste. On parle de la bande originale un tout petit peu, parce que il y a une chanson qui résume bien le côté solaire de ce film.
Here comes the sun, the sun, I say it's all right.
Mais cette version de Nina Simone, mais quelle bombe.
It's all
right. Vous écoutez beaucoup de musique pour travailler, pour écrire, pour...
Non, surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à la phase musique ou même quand on écrit, voilà, on cherche des sons tranquillement et voilà. Mais sinon, enfin bref, il y a des périodes où on en écoute plus que d'autres, voilà. Et quand on est en post-prod, voilà, c'est vrai que là, on bastonne pas mal.
Et vous voyez ça?
Pour construire des personnages, c'est génial.
Ah voilà, c'est pour rentrer dans un univers.
Parce qu'on rentre, on construit l'univers du personnage, on construit une vibe, etc. On peut y associer, par exemple, un souvenir très fort, et puis il y a des émotions qui sont déclenchées par des musiques, et parfois avant des scènes difficiles, au lieu de réfléchir et de se mettre la pression, on remet ça et paf. On est directement reconnecté, c'est génial.
Corniche Kennedy sort également aujourd'hui. Vous serez donc membre de ce jury du film réalisé par des mobiles. Et vous, quels sont vos projets pour 2017, Lucien?
On va peut-être essayer de faire la suite de La Première Étoile, mais on cherche le titre.
La deuxième.
Ouais,
je pensais qu'elle est plus rapide, mais bon.
Mais c'est vrai qu'on est là-dessus.
Merci mille fois.
Petit coucou sur le bébé. Si vous allez voir ce film, ce bébé est exceptionnel.
Mais il y en a quand même plusieurs.
Plusieurs dans le contre-champ, mais le bébé qu'on voit à l'écran, c'est toujours le même.
Il n'a pas été blessé pendant le tournage.
Non, pas du tout.
Marius. Des excuses à présenter.
Oh, des excuses. Désolé pour monsieur John Malkovich. Quand Lucien Jean-Baptiste expliquait qu'il avait repéré Vincent Elbaz, Salvador Dali, mis en scène par bref, il parlait de vous, monsieur Malkovich. Désolé pour tous les Antillais, les Congolais qui ont été choqués par le racisme d'Aïssa Maïgad, Lucien Jean-Baptiste.
Pour tout vous
dire, moi aussi, j'ai été choqué. Je me suis senti sali dans mon intégrité. T'es congoïde. Spéciale dédicace à mes amis de Radio Courtoisie. Et évidemment, vous pensez bien. Désolé pour nos auditeurs racistes, fans de Tom Villa, qui ont cru ce matin être sur Africa numéro 1. Promis, demain on se rattrape, les gars. D'ailleurs, Nagui sera remplacé par Henri de Lesquin. J'ai hâte.
Je sais,
j'imagine.
Demain, c'est Mylène de Mongeau qui sera notre invitée. Nous parlerons au théâtre. Merci, Aïssa Maïga. Merci, Lucien Jean-Baptiste. Et surtout, bravo.
Allez-vous marrer
pour ce film. Il a déjà tes yeux. C'est maintenant qu'il faut y aller.
Il fait chaud dans les salles de cinéma.
C'est drôle. Il fait chaud dans les salles de cinéma.
Et sans surchauffe.
Il fait chaud avec la voix de Philippe Bertrand aussi sur France Inter. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui. Il fait chaud dans les salles de cinéma, sauf si on prend une glace.
Je suis
d'accord avec Daniel, j'ai senti un malaise à un moment donné dans l'émission. Ouais. Quand vous avez parlé d'adoption, j'ai senti qu'il y avait un blanc, mais bon.
Oh,
je vous en prie.
Bonne émission, Philippe.
Salut les amis.
Salut,
merci. Courage.